À 8h16, vous recevez Sébastien Guyot, Jean-Luc Bourlange, député et vice-président de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale.
Bonjour Jean-Louis Bourlange.
Bonjour.
Merci d'être en ligne en direct ce matin sur Europe 1. C'est un accord historique qui se joue ce week-end à Bruxelles. Il y a de la tension presque dramatique. Il faut dire que l'enjeu est de taille, 750 milliards d'euros avec pour la première fois de l'histoire européenne un endettement commun. Avant de parler du fond, Jean-Louis Bourlange, un mot de la forme. En claquant la porte des discussions cette nuit face à l'intransigeance des pays dits frugaux ou radins, les Pays-Bas en tête, est-ce que Emmanuel Macron et Angela Merkel font monter la tension avant la reprise des pourparlers? Est-ce que c'est une bonne stratégie?
Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Moi, c'est ce que, en me couchant hier soir, je voyais que ça dérapait. Et je me disais que j'aurais été tenté de faire la même chose qu'eux. Donc, je ne sais pas si c'est bon. En tout cas, c'est une tentation qui me paraît très légitime. Parce qu'il faut quand même voir que nous sommes dans une situation folle. C'est pas du tout, c'est historique. Pourquoi? Parce que le système institutionnel est complètement bloqué. Vous rendez compte qu'on a un plan qui est globalement porté par 80-90% des pays représentant 80 ou 90% de la population européenne. Et on a des États qui bloquent, je ne dis pas qu'ils négocient, négocier c'est normal, mais qui bloquent le système, qui veulent vraiment le dénaturer et qui représentent 10% de la population. Ce n'est pas, moi je veux bien tout ce qu'on veut, ce n'est pas de la démocratie. Et c'est effectivement très irritant d'avoir un système qui fonctionne comme ça. Ça fait 25 ans que je le dénonce et ça fait 25 ans qu'on est prisonnier de cette machine à ne pas décider.
Donc l'Europe bloquée par les égoïsmes nationaux de quatre pays.
Bloqué par le système, vous comprenez. Imaginez que les États-Unis, que Monsieur Trump, pour prendre une décision, doivent avoir l'accord unanime des 50 États qui composent les États-Unis.
Oui, impossible.
Évidemment, ils feraient peut-être moins de bêtises, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes nous avons 27 pays qui ont chacun leurs intérêts, leurs sensibilités, et nous décidons à l'unanimité. Moi, je dis depuis longtemps qu'il faut décider à la majorité qualifiée, c'est-à-dire à une très large majorité, mais pas à l'unanimité. Il faut éviter que des gens puissent bloquer. Et là, je trouve que les États, et notamment les Néerlandais, Mark Rutte est un personnage assez remarquable et entêté comme le sont souvent ses compatriotes. Il bloque le système. Je trouve que c'est évidemment très très illégitime.
Alors Jean-Louis Bourlange, le système, faut le changer, mais là on va pas pouvoir le changer d'ici à la reprise des négociations à midi. Sur le fond, c'est un accord historique parce que dans ce plan de relance à 750 milliards d'euros, il y a un endettement en commun, c'est du jamais vu. Sur place d'ailleurs, il y en a qui comparent ce qui se joue en ce moment à la création de l'euro. Est-ce que c'est une page de l'histoire qui va pouvoir se tourner s'il y a un accord tout à l'heure?
Bah, qui se joue surtout, qui se compare surtout, on parle le moment hamiltonien, parce que la grande décision du pouvoir des États-Unis d'Amérique, ça a été la décision prise par Hamilton de créer une dette commune aux États qui venaient d'acquérir l'indépendance. Donc on est dans un moment, effectivement, de ce point de vue-là historique. Moi, je crois que c'est absolument nécessaire. Vous avez une zone euro qui a de grands avantages, l'euro, mais ça a un inconvénient, c'est que ça concentre effectivement la prospérité, le dynamisme sur les pays qui sont au cœur du système, notamment le Benelux, l'Allemagne, etc. Il est donc absolument nécessaire d'avoir un instrument budgétaire de solidarité avec les pays qui sont plus à la périphérie et qui, en plus, dans le cas d'espèce, ont été directement et massivement frappés par la pandémie. Donc ne parlons pas d'État frugaux, mais bien d'État radin. C'est un geste nécessaire de solidarité budgétaire. On ne peut pas avoir l'avion européen, ne peut pas avoir un moteur monétaire et ne pas avoir un moteur budgétaire. Et la grande décision, la grande innovation de la chancelière allemande, c'est d'avoir accepter ça, ce que nous, Français, nous demandions. Elle l'a accepté, c'est un pas formidable en avant et il est absolument regrettable de voir que nous sommes paralysés par des réactions qui ne sont pas justifiées.
Alors, parce que ce que prévoit le plan de relance à 750 milliards d'euros, c'est de subventionner sans remboursement ceux qui ont été le plus touchés. En effet, ce serait l'Italie et l'Espagne qui en bénéficieraient le plus, la France dans une moindre mesure. Et en plus, pendant ces négociations, les pays que vous qualifiez de radins, donc de frugaux, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark, ont obtenu des avancées, des concessions là pendant ce week-end.
Oui, justement, c'est ça le problème. Vous savez, il faut quand même pas exagérer. C'est une somme très importante. Pourquoi on donne des transferts budgétaires? Parce que, pour l'instant, grâce à l'action de la Banque centrale, les États ont des facilités pour s'endetter. Ils ont des taux d'intérêt extrêmement bas et qui sont maintenus bas par la solidarité exercée par la Banque centrale. Mais on ne peut pas se réjouir de voir que des États très endettés, comme l'Italie, comme nous aussi, puissent simplement continuer à s'endetter. Il faut donc faire face à des dépenses et ne pas avoir à des transferts budgétaires. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un équilibre entre des autorisations de prêt et des transferts budgétaires. Je crois qu'il faut bien comprendre cela. C'est absolument essentiel.
Alors les concessions dont je parlais, c'est le fait qu'on rééquilibre.
Ah oui, pardon, j'ai oublié vos concessions.
Non, mais
excusez-moi.
Voilà, en gros, il y avait
les concessions, ça va pas.
Des prêts remboursables pour les États, ça va être 300 milliards au lieu de 250, et donc moins de subventions. Ils ont aussi un contrôle strict de l'argent, des rabais supplémentaires, mais ils en veulent toujours plus.
Non, il est évident qu'on n'aborde pas une négociation sans être prêt à faire un certain nombre de concessions. Ce qui n'était pas acceptable, c'était de demander un droit de veto à certains États contre l'utilisation par les autres de l'argent qui était défini. Ça, c'est une espèce d'humiliation. Les Grecs l'ont supporté, ils avaient fait beaucoup de bêtises, il faut dire. Les Grecs ont souffert de ce système pendant longtemps, et je crois que tout le monde, personne n'en veut. Il y a un contrôle général qui doit être exercé par l'Union européenne, et non pas un contrôle par un certain nombre d'États qui seraient des États pions, en quelque sorte, qui surveilleraient le comportement des mauvais élèves. Ça, c'est important. Et donc, il faut éviter ça. D'autre part, il faut éviter des trafics, c'est-à-dire de dire par exemple on consent à ces affaires budgétaires, mais à condition qu'on nous donne par ailleurs des satisfactions en matière de rabais sur le budget. On ferait donc une opération purement optique qui serait inacceptable. Donc je pense qu'il y a là quelque chose de très important, parce que il est certain que ce que montre le comportement d'un certain nombre d'États, c'est qu'ils n'acceptent pas l'idée d'une Europe dominée par d'une Europe qui fait une union monétaire. Et c'est d'autant plus étrange que parmi les États frugaux, comme vous dites, comme on dit, il y a des États qui ne sont pas membres de l'Union monétaire, comme la Suède ou comme le Danemark.
Absolument.
Ils ne sont pas membres de l'Union monétaire. Le seul, les pays cercles, l'Autriche et les Pays-Bas le sont. Et je comprends très bien, mais on ne peut pas imposer à des États membres de l'Union monétaire, des États qui n'en sont pas membres, des modes de fonctionnement qui empêcheront l'Union monétaire de fonctionner. Parce qu'à terme, si nous n'arrivons pas à faire un saut qualitatif important dans le domaine budgétaire, c'est quand même la fiabilité, la crédibilité de l'euro qui sera tôt ou tard mise en cause.
Jean-Louis Borlange, une dernière question rapide. Dans une demi-heure à peu près, Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvent. Normalement, les discussions doivent reprendre avec les 27 à midi. Vous êtes optimiste ?
Écoutez, moi je suis comme dit l'autre, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais déterminé. Non, je pense que moi j'ai toujours pensé que il n'était pas évident qu'on aboutirait cette fois-ci. Je pense qu'on aboutira. On aboutira parce que personne ne veut une crise. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on aboutisse à un projet qui ne soit pas dénaturé, qui soit modifié, qu'il y ait des concessions de fait, mais c'est très légitime, au profit de tel ou tel pays, mais que le projet ne soit pas dénaturé. Et ça, je pense que les États, qui sont d'ailleurs assez remarquables par leur gestion, les États dits frugaux, la Suède, le Danemark et surtout les Pays-Bas, doivent comprendre qu'ils n'ont pas le droit à la dénaturation d'un projet qui est porté par l'immense majorité des États européens et des peuples européens.
On a compris. Merci beaucoup pour votre décryptage, Jean-Louis Bourlange, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1, député MoDem et vice-président de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale.